Il est 23h en temps universel, l'heure de retrouver un nouveau journal sur RFI. Et c'est avec vous Mathis Limano, bonsoir.
Bonsoir Victor, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la COP29 et le discours de Pedro Sanchez ce mardi à la tribune. Le Premier ministre espagnol a appelé à l'action face à l'urgence climatique alors que son pays se relève à peine des inondations meurtrières dans la région de Valence. À suivre, reportage à Beyrouth, la capitale libanaise de nouveau visée par les frappes israéliennes. Ce mardi, 29 personnes sont mortes et vous l'entendrez, les soutiens du Hezbollah parmi la population sont encore vifs. En Russie, une médecin écope de 5 ans et demi de prison ferme pour avoir critiqué et la guerre en Ukraine, et puis la Suède vient de déposer son nom comme marque. Au premier jour du sommet des chefs d'État, la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a appelé à l'action face à l'urgence climatique, alors que les secours sont toujours à pied d'œuvre au sud de l'Espagne, deux semaines après les inondations meurtrières, et que les autorités sont toujours très critiquées pour leur mauvaise gestion de la catastrophe.
El cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300 000 personas.
Le changement climatique tue. Rien que l'année dernière, il a tué plus de 300 000 personnes et il vient de contribuer à la mort de plus de 220 de mes compatriotes en Espagne dans la plus grande catastrophe naturelle de notre histoire. Une catastrophe qui, selon les premières données, aurait été moins probable et moins intense sans l'effet du changement climatique. La planète nous envoie donc des signaux de plus en plus clairs et pourtant, en ce moment crucial pour l'humanité, nous voyons de nombreux gouvernements tergiverser, ralentir, alors qu'ils devraient aller plus vite, ou même nier l'évidence, faire demi-tour et marcher à reculons pour revenir vers le pétrole et les véhicules à combustion.
Volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à la tribune de la COP29. Et en Espagne, le couple royal Felipe VI et Laetitia retournera la semaine prochaine dans la région de Valence auprès des sinistrés, après une visite très tendue quelques jours après la catastrophe. Plusieurs attaques mortelles en Israël comme au Liban. Ce mardi, le Hezbollah déclare avoir lancé des missiles sur une base aérienne au sud de Tel Aviv et deux personnes ont été tuées dans le nord d'Israël. Des frappes israéliennes ont fait par ailleurs au moins 29 morts au Liban ce mardi, notamment à Beyrouth. Nos envoyés spéciaux dans la capitale libanaise ont rencontré des soutiens du Hezbollah qui ne décolèrent pas. Reportage Muriel Paradon et Julien Boileau.
Voilé de noir, keffiyé sur les épaules, Mouna Abbas, 54 ans, s'est réfugiée dans le quartier de Hamra à Beyrouth. Elle vient de Dahiyé, dans la banlieue sud. C'est un fief du Hezbollah, mouvement qu'elle soutient et qu'elle appelle la résistance.
Nous, on est avec la résistance, qu'on perde nos enfants, nos maris. La terre nous appartient. L'important est qu'elle reste à nous et on reconstruira. On est avec la résistance jusqu'au bout.
Mahmoud Sahan, lui, vient d'un village du sud du Liban, frontalier avec Israël. Il raconte avoir tout perdu, sa maison, sa ferme. Il pense que le Hezbollah, bien qu'affaibli, peut remporter la guerre.
Le Hezbollah a les moyens. Si ce n'est pas le cas, Dieu est là. Comme le Hezbollah s'est battu en 2006, il refait la même chose aujourd'hui, même davantage. Il est capable d'atteindre Haïfa et Tel Aviv.
Ali Samra, 73 ans, lui aussi vient du sud du Liban, réfugié à Beyrouth. Il ne décolère pas contre les Israéliens.
Qu'est-ce qu'ils font, les Israéliens? Ils tuent des enfants, ils détruisent nos maisons, qu'on laisse nos enfants aller à l'école, d'accord? On veut vivre en paix. Mais les Israéliens et leur gouvernement, ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'il veut encore, Netanyahou?
Un conflit sans fin, regrette le vieil homme, qui a déjà connu plusieurs décennies de guerre au Liban. Muriel Paradon, Julien Boileau, Beyrouth, RFI.
Et dans la bande de Gaza aussi, la guerre se poursuit. Une haute responsable de l'ONU a dénoncé la cruauté quotidienne subie par la population. Alors que les États-Unis disent ne pas avoir perdu espoir de parvenir à un cessez-le-feu, le Hamas accuse Washington d'être complice d'une guerre génocidaire. La justice américaine donne gain de cause à trois Irakiens détenus pendant la guerre d'Irak, précisément dans la tristement célèbre prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad. Entre 2003 et 2004, les prisonniers y étaient torturés, abusés physiquement et sexuellement, notamment par une entreprise privée de sécurité chargée par l'armée américaine d'interroger les détenus. Cette entreprise, Cassi International, vient d'être condamnée à indemniser les trois victimes à hauteur de 14 millions de dollars chacune.
RFI.
Dans une Russie soumise à une intense répression sur tout propos critique de la guerre en Ukraine, les arrestations, amendes et peines de prison pleuvent sur toute personne émettant le moindre propos pouvant apparaître comme contraire à ceux du pouvoir. Les dénonciations fleurissent avec une affaire emblématique. Elle combine les deux ingrédients, dénonciation et répression. Une pédiatre est accusée d'avoir tenu dans un cadre privé des propos contre la guerre en Ukraine. Cette médecin de la capitale russe a été condamnée ce mardi à 5 ans et demi de prison ferme. RFI Moscou, Anissa El-Jabri.
La salle de ce tribunal banal de la capitale russe était pleine pour le verdict de l'affaire Nadiejda Bouyanova. Le public a été interdit pour son prononcé, mais elle annonce ensuite des 5 ans et demi ferme. Quelqu'un dans le public a crié « Honte à vous !» Trois personnes suspectées d'avoir tenu ce propos ont immédiatement été arrêtées. Nadiejda Bouyanova s'est retrouvée dans le collimateur des forces de sécurité le 31 janvier dernier, quand la compagne d'un soldat porté disparu au front en Ukraine l'a dénoncée. Cette mère d'un garçon de 7 ans soigné par la pédiatre l'a accusée de lui avoir dit lors d'une conversation privée que, je cite, « son mari disparu en Ukraine était une cible légitime pour les forces armées ukrainiennes » et que, je cite encore, « la Russie était un pays agresseur et attaqué ». Les civils ukrainiens. Pour les avocats, ce sont les seuls éléments à charge dans le dossier. Petit bout de femme de 68 ans aux cheveux blancs coupés courts et habillée tout de noir, la pédiatre assise dans sa cage vitrée des accusés a elle eu ces mots. Chaque personne devrait avoir des convictions intérieures fortes. Chacun devrait faire preuve d'empathie pour l'autre. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Le père de l'opposant Ilya Yashin, condamné à 8 ans et demi de prison pour faux contre l'armée russe, puis libéré cet été lors d'un échange de prisonniers entre Moscou et l'Ouest, était lui aussi au tribunal. Il a déclaré à la presse « C'est une horreur de donner une telle peine pour une femme de cet âge ». Les avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se poursuit devant les tribunaux. Ce mardi, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente pour juger deux affaires dans le cadre de la guerre au Haut-Karabakh. La première est portée par l'Arménie pour, je cite, des violations présumées de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La deuxième, portée par l'Azerbaïdjan, accuse l'Arménie de nettoyage ethnique, de discours de haine et de propagande raciste. En septembre 2023, Bakou avait repris le contrôle de la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh au terme d'une offensive éclair, provoquant l'exode de plus de 100 000 personnes. Journée d'horreur à Taninges, dans les Alpes françaises. Trois enfants de 2, 11 et 13 ans ont été retrouvés morts dans une maison. Selon les premières constatations, ils présentent des plaies à l'arme blanche. La mère des enfants est activement recherchée par la police. La Suède devient le premier pays à inscrire son nom comme marque déposée. La demande était officiellement faite auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Otilia Ferret, c'est une première mondiale.
Dans le monde, il existe 8 Suèdes. Oui, oui, 8. 6 aux États-Unis et une en Indonésie. Alors c'est légal, rien n'empêche d'autres villes ou même des pays d'utiliser le nom Sweden, mais ça peut porter à confusion. Alors, dans une vidéo empreinte d'humour typiquement suédois, l'Office du tourisme annonce avoir soumis une demande pour déposer sa marque. Une première mondiale. Si les marques ont le droit de déposer leur nom et leur logo afin de préserver leur identité unique, pourquoi les pays n'en auraient-ils pas le droit ? C'est la question posée par Visit Sweden, qui se dit certes flattée par l'imitation, mais préfère n'avoir qu'une seule Suède. Celle des lacs, des îles, des vastes forêts et, je cite, des meubles en kit les plus cools de la planète. Sur un ton toujours humoristique, l'Office du tourisme distribue même un guide pratique pour distinguer la vraie Suède des fausses. Ce problème d'homonyme n'est pas propre au royaume. Dans le monde, on recense par exemple 51 Berlin, 20 Londres, 6 France ou encore 48 Paris. En Suède, on trouve même une ville qui s'appelle Trouville. En déposant ainsi son nom comme marque déposée, la Suède souhaite encourager les autres pays à faire de même. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et pas de joueur suédois au Masters ATP de tennis à Turin, en Italie, mais Yannick Sinner se rapproche des demi-finales. Le numéro 1 mondial a enchaîné une deuxième victoire ce mardi face à Taylor Fritz, 6-4, 6-4, ce qui lui permet de prendre la tête de son groupe. Autre match dans la même poule, Daniil Medvedev a dominé l'Australien Alex de Minaur, 6-2, 6-4. La Britannique Samantha Harvey à la fête ce soir. La romancière vient de remporter le Booker Prize 2024, prestigieux prix littéraire britannique. Orbital, c'est le titre d'une roman récompensé. L'histoire raconte une journée dans la vie de 6 astronautes à bord d'une station spatiale, offrant une réflexion sur le deuil, le désir et la crise climatique. RFI, il est minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.